vous savez, ceci me trouble beaucoup. Parce que ça semble tellement simple et c'est tellement complexe. Et c'est pour cela que je veux vous entretenir ce matin. À Toulouse, il y a déjà des années, il y avait une jeune étudiante qui est venue à nos réunions et qui a accepté le Seigneur. C'était dans un moment où beaucoup de gens ont accepté le Seigneur et elle en était une. Et alors, elle était heureuse. Pour vous dire qu'elle était contente, elle était plus que contente, elle était joyeuse, je suis sauvée. Alors, elle a acheté une Bible, elle a acheté un livre, elle était dans toutes les réunions, toujours joyeuse, toujours pleine de joie. Et un jour, je crois que c'était juste avant les vacances de Pâques, elle est venue me dire, « Monsieur Somerville, priez pour moi. » Je dis, « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je rentre chez moi. » »« Oui, oui, et alors ?»« Oui, mais il faut prier parce que j'ai peur, j'ai peur. » Je dis, « Non, mais peur de quoi ?» Elle a dit, « Oh, je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai peur, je redoute de rentrer chez moi. » Elle a dit, « Priez pour moi. » Et à partir de ce moment, elle commençait à être un peu différente. Elle est partie. Et j'attendais son retour. Et les vacances sont terminées, pas de jeune fille. J'ai attendu. Et puis tout d'un coup, sur les escaliers devant l'église, il y avait sa Bible et un livre. Le livre qu'elle avait acheté. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, longtemps après, je l'ai vue de l'autre côté de la rue. Oh, j'ai couru vers elle et j'ai dit, j'ai appelé par son nom et j'ai dit, alors, tu es de retour? Alors, elle m'a regardé avec les yeux lointains, pleins de haine. Elle m'a regardé, elle a dit, laissez-moi tranquille, j'ai fait mon choix. Alors, je me suis dit, est-ce que cette jeune fille a perdu son salut? Vous savez, ça secoue quelqu'un. Et puis, je me rappelle que la Bible dit que non, on ne perd pas. C'est-à-dire, on est sauvé pour l'éternité. C'est pour toujours qu'on est sauvé. Donc, elle n'a pas perdu son salut. Mais si elle n'a pas perdu son salut, qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'était jamais sauvée, voilà ce qui est arrivé. Elle n'était jamais sauvée. Et vous savez, c'est ça qui me... Vous savez que quand j'amène quelqu'un dans le bureau ici, et que je prie avec cette personne, vous savez, je tremble. Plus qu'un médecin devant un malade, qui risque de perdre son malade, même s'il le perd, ce n'est que pour momentanément. Mais si je perds encore moi, c'est pour l'éternité. Alors, des fois, il arrive des fois que je ne veux même pas y aller, de peur de ne pas réussir. Alors, le passage qui nous a été lu tout à l'heure peut nous aider peut-être un peu dans cela. Il y avait une jeune fille qui a accepté le Seigneur pendant les messages de Randy Bain, qui d'ailleurs m'a écrit une très gentille lettre hier, disant qu'il prie toujours pour nous, qu'il nous aime beaucoup, pense à nous. Et pendant cette campagne, il y avait une jeune fille qui est venue, un autre cas comme ça. Elle a accepté le Seigneur. Je me rappelle comment elle a pleuré. Elle était tellement contente. On a pris sa photo et tout ça. Puis elle n'est pas venue. Longtemps après, elle est venue, mais elle était tout à fait différente. On l'a contactée à plusieurs reprises. Et puis finalement, j'ai donné rendez-vous en automne. Je vais parler. Est-ce qu'elle a perdu son salut? Écoutez, je vais vous dire une chose maintenant. Dans le passage qui a été lu tout à l'heure, nous allons trouver beaucoup de lumière sur ce sujet. Regardons ensemble Hébreux 6. Pendant que vous le cherchez, je vais vous raconter ce qui se passait là. Parce que à ce moment-là, quand, et je crois que c'était l'apôtre Paul qui a écrit Hébreux, mais on dit toujours l'écrivain du livre aux Hébreux, mais je crois que c'était l'apôtre Paul. Et c'est en chapitre 6 qu'il les avertit. Maintenant, avant d'entamer le passage en question, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé. Après Pentecôte, les disciples allaient souvent au temple, parce que le temple était toujours là. Le temple ne fut détruit qu'en l'an 70. Donc Christ est mort, disons, l'an 33, donc ça restait là. Pratiquement 40 ans après la mort et la résurrection de Christ, le temple était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces Hébreux, ces Juifs qui étaient là, ils avaient accepté le Messie. Jésus est le Messie. Ils ont cru en lui. Mais puis le samedi, il y avait quand même le temple. Alors, ils sont retournés au temple. Et puis, au temple, qu'est-ce qu'on faisait au temple? On faisait des sacrifices. Des sacrifices, oui, oui, des sacrifices sanglants. Mais alors, Paul a dit, écoutez, hein, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle et revenir dans votre ancienne religion. Pourquoi? Parce que Christ est la fin des sacrifices. Si on a Christ, on n'a pas besoin de sacrifier. Et si on sacrifie, c'est comme si on n'acceptait pas la mort de Christ. C'est ou l'un ou c'est l'autre. Et il clochait entre les deux. Est-ce que je retourne dans mon ancienne religion ou est-ce que je viens ici avec les chrétiens? Au début, il n'y avait qu'un camp, le camp de Dieu. Mais quand, je vais attendre un moment, quand Lucifer a voulu être lui-même adoré comme Dieu, il s'est révolté contre Dieu. Et Satan a formé un autre camp, le camp de Satan. Donc il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan. Et quand on accepte Jésus-Christ, on doit quitter le camp de Satan carrément et entrer dans le camp de Dieu et de prendre sa position dans le camp de Dieu. Ces Hébreux clochaient entre les deux et Paul a dit, attention, hein, vous clochez entre les deux, mais bientôt vous serez obligés de prendre une décision. Si vous revenez dans votre ancienne religion, vous serez perdus. Non seulement que vous serez perdus, et le mot que je veux relever plus que tout autre mot, c'est le mot impossible. Vous avez vu ça? Hébreux 6, 4. Je ne l'ai pas inventé. Hein? Regardez. Hébreux 6, 4. Il est impossible. Il y a le mot difficile. Jésus a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile, disait-il, pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est difficile pour un riche d'être sauvé. Vous savez, aller dans les Champs-Élysées, dans le triangle d'or, et vous allez voir des hommes élégants, les femmes élégantes qui passent, et vous leur dites, est-ce que vous voulez être sauvés et avoir la vie éternelle? Vous allez voir la réception que vous aurez. Mais vous savez, ce n'est pas impossible qu'ils acceptent le Seigneur. Et de temps en temps, des riches et des nobles acceptent. Donc il ne faut pas totalement les négliger parce qu'ils vont aussi en enfer. Quelquefois, on pense que parce qu'on roule en Rolls-Royce, qu'on va rouler avec le même au ciel. Mais ce n'est pas vrai. Hein? Les riches vont en enfer aussi bien que des pauvres. Si on n'est pas Christ, on est perdu. Ce sont les pauvres perdus. Il faut toujours se rappeler de cela. Tant qu'on n'a pas Christ, on est perdu, même si on a des millions. J'aimais beaucoup Élisabeth 1. Vous savez, elle était sauvée, Élisabeth 1. Et donc, n'est-ce pas, parlons de nobles. Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle donnait des traités aux invités quand ils venaient au palais. Hein. Oh là là, il faut le faire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et alors, quand on accepte le Seigneur, il faut croire en Christ. Il faut changer de camp. Aussi. Parce que tant qu'on n'a pas changé de camp, on est toujours dans l'ancien camp. Vous savez, il y a des gens qui disent, voilà, je veux accepter le Seigneur. Voilà ce qui est arrivé à cette jeune fille. Quand elle est rentrée chez elle, elle savait pertinemment que ses parents n'allaient pas être pour sa conversion. Et ses parents lui ont fait comprendre, et elle a cédé. Et au lieu de se tenir ferme, elle n'a pas quitté le camp de Satan pour aller souffrir avec le peuple de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas à cause des amis. Ils savent pertinemment que s'ils acceptent réellement Christ, il faut qu'ils quittent leurs amis et qu'ils soient dans le camp de Dieu et qu'ils prennent position dans le camp de Dieu, qu'ils n'aient pas peur de le dire. Et beaucoup de gens ne le font pas. Il y a aussi des gens qui vivent avec une concubine. Ils savent bien que s'ils acceptent le Seigneur, alors, cette relation de deux choses l'une. Ou l'autre va accepter le Seigneur, ils vont se marier, ou ils vont se séparer. Et vous savez, quand il s'agit, surtout d'une jeune fille qui aime un garçon, elle sait bien qu'elle va le perdre. Et au lieu de perdre ce garçon, elle est prête à perdre la vie éternelle. On quitte le camp. Vous savez, on n'est pas sauvé tant qu'on n'a pas pris position. Il faut se rappeler de cela. Il ne s'agit pas simplement de dire, Seigneur, je t'accepte. Quand est-ce qu'on est réellement sauvé? Je vous le dirai à la fin. Je vous le dirai à la fin de la réunion. Quand on est réellement sauvé. Mais vous savez, ceci est très important. Ma femme avait deux frères. Elle avait d'autres, mais en particulier deux. Tous les deux ont fait profession de foi. Tous les deux se sont mariés. L'un était très intelligent, exceptionnellement intelligent, le premier dans sa classe en toutes choses. Premier dans sa classe à la faculté. Et il avait une grande position dans le monde. Il a épousé une femme qui a dit, « Je suis athée et je veux que tu sois athée avec moi. Si tu veux m'épouser, athée. Hein, » tu comprends? Il avait accepté le Seigneur. Il était le premier dans la famille qui l'a accepté. C'était lui qui a amené tout le reste de la famille. Mais il n'avait pas changé de camp. Et il a choisi cette femme plutôt que Christ à la fin. Vous dites, il a perdu son salut? Non, il n'a jamais eu son salut. Parce que dans son esprit, il n'avait jamais changé de camp. Vous dites, si on accepte le Seigneur, réellement, est-ce qu'on ne peut pas être sauvé sur le champ? Oui. Moi, j'étais sauvé sur le champ, instantanément. Je vais vous dire tout cela par la suite. Mais pour continuer, elle avait un autre frère. L'autre frère, divorcé, se remarier, le premier frère, non, jamais divorcé, avec la même femme jusqu'à sa mort. Et ils sont morts tous les deux très âgés. Mais l'autre, oh là là, il avait aussi accepté le Seigneur quand il était jeune, mais il avait pris position. Il a épousé une autre femme, ils ont vécu ensemble, ils avaient une fille de ce mariage, qui n'a pas cessé de grandir pendant des années, lui, il a refusé. Il a dit, non, je n'entre pas dans l'Église. Non, je n'y retournerai jamais. On lui demandait, mais tu ne seras pas sauvé. Oh, mais je suis sauvé quand même. Il disait toujours, il était sauvé. Il était baptisé, il était membre pendant un temps. Donc, il a dit, non, je suis sauvé, mais c'est fini. Il est arrivé un jour où sa fille a grandi assez, elle était devenue une jeune fille, et elle a voulu être baptisée. Elle a dit, « Papa, est-ce que tu vas venir à mon baptême ?» Oh là là, lui qui n'a jamais mis le pied dans une église depuis des années, il a dit, « Bon, d'accord, parce qu'il aimait beaucoup sa fille. » Il a dit, « Oui, je viendrai. » Alors, quand le pasteur a fini son message, il a dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se mettre en règle avec Dieu ?» Son frère s'est brisé en deux. Il est venu, il s'est fondu là, et il a dit, voilà. Vous savez qu'il est devenu l'homme principal dans l'église après. Il était entièrement pour Christ, mais entièrement changé. Et pourtant, lui, le monde aurait dit, oh là là, lui, divorcé, tout ça, n'est-ce pas? Tandis que l'autre, un homme élégant, un homme très haut, avec une seule femme jusqu'à la vie, non, mais l'un était perdu et l'autre était sauvé. C'est important. Vous savez, on ne prend pas cela au sérieux. La Bible dit que c'est impossible pour quelqu'un comme la jeune fille à Toulouse qui a refusé, elle est perdue pour l'éternité. Elle ne pourrait pas être sauvée. Ce n'est pas possible. Il est impossible pour quelqu'un qui est... Voilà, regardons. Regardons le verset avec moi maintenant. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, pour cette jeune fille, étaient vraiment éclairés. Qui éclaire une personne? C'est le Saint-Esprit. Elle avait les yeux ouverts. Vous savez que l'homme qui marche dans la rue n'est pas éclairé. Ils ne tombent pas dans cette catégorie-là. Cette catégorie pour les impossibles, ce sont ceux qui sont parfaitement éclairés, totalement éclairés, qui savent ce qu'ils font. Regardons. Regardez le verset par la suite. Ça dit, une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. Qui ont goûté le don céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand... Je l'ai vu, elle a dit, ah, j'ai accepté. Elle a goûté. Elle a goûté le Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit. Elle a goûté ça sans vraiment être sauvée. On peut. Et je ne l'ai vu pas une fois, ni deux fois, ni 10 fois, ni 20 fois, mais des centaines de fois. Des gens qui ont goûté ce que ça veut dire, mais qui n'ont pas changé de camp. Regardons encore. Qui ont été une fois une part au Saint-Esprit, c'est ça. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils savaient ce que ça veut dire d'être touché par le Saint-Esprit. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux d'être touché par le Saint-Esprit. Et voilà, s'ils tombent, n'est-ce pas, qui ont été goûtés, et les puissances du siècle à venir, c'est-à-dire... C'est comme si on voit le ciel pour la première fois, on sait qu'on y va. Les siècles à venir, c'est-à-dire ils goûtent le ciel, l'éternité, juste un peu. Mais si, ça dit que s'ils tombent, s'ils retournent, c'est impossible. Impossible qu'ils soient sauvés après. Vous dites, mais pourquoi c'est impossible pour cette jeune fille, pour ces gens-là? Parce que le Saint-Esprit ne les trouble plus. Oh, c'est merveilleux quand le Saint-Esprit nous trouble. Quand le Saint-Esprit, tu dis, voilà, ce que tu fais n'est pas bien. Il faut que tu changes de camp. Il faut que tu sois entier. N'est-ce pas? Donc, mais il arrive un moment, souvent, que la personne dit, ça suffit, ne me trouble plus. Oh là là. Surtout, ne dites pas ça. Ne dites pas, jamais laisse-moi tranquille. Parce que si jamais vous dites au Saint-Esprit, laisse-moi tranquille, vous êtes condamné pour l'éternité, hein, en enfer. Il n'y a pas de chance. Vous ne pouvez pas après être sauvé. C'est terminé. Vous dites, mais combien de temps est-ce qu'on a? Combien de temps est-ce qu'on peut clocher entre les deux? Oh, je crois que ça diffère avec chacun. Ça dépend. Mais ce n'est pas pour toujours. Hein. Il y a un moment où il faut choisir. Choisir son camp. Est-ce que vous voulez être avec Dieu pour l'éternité ou avec Satan? Il faut choisir. Coûte que coûte. Perdre tous ses amis, perdre son ami, perdre tout pour avoir Christ. C'est ça que ça coûte. Et des gens jouent avec Dieu, pensant que voilà, je suis le plus fort. Il ne m'a pas eu. Il m'a dit de venir, mais j'étais fort. Oui? Fort vous étiez? Vous croyez que vous étiez fort? Vous êtes perdu, voilà, c'est ça. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le Saint-Esprit, s'ils tombent, d'être renouvelés. C'est terminé pour l'éternité. Et je prêche ce message parce qu'on joue trop avec Dieu. On dit, oh là, c'est pas ça. Non, autre chose. Il y a un match de foot ce soir, mais on ne pense pas. On est allé à l'église. Vous savez, une fois, ça sera la dernière. Une fois, ça sera la dernière fois. Je me rappelle de beaucoup de choses qui me sont arrivées dans la vie. Quand est-ce qu'on est réellement sauvé? Quand? Je vais vous le dire. Quand on est scellé du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit met son sceau sur nous. Il met son sceau. Alors là, le sceau est pour l'éternité. Mais quand est-ce qu'on est scellé? Quand on prie la position totale, quand on change de camp, quand on paie le prix. Et moi, j'étais sauvé, scellé instantanément. Beaucoup d'autres comme moi, sauvés et scellés instantanément. Et d'autres, non. Quelle est la différence? C'est que Dieu sait, quand quelqu'un dit « Seigneur, je t'accepte », s'il est prêt à changer de camp ou non. Le Seigneur le sait, ça. Quand j'ai dit oui au Seigneur, j'ai changé de camp, hein, franchement. Oh là là. Je l'ai dit à tout le monde. Hein. Je ne pouvais pas le dire assez du monde. J'étais baptisé, j'ai dit voilà. C'était fini. J'étais scellé à l'instant même, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais Dieu sait aussi ceux qui vont clocher. Qui, une fois à la maison, vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, qu'est-ce que... Mais ça va me coûter ceci. Mais après cela, je ne peux plus faire cela. Mais voilà, mais même le travail que j'ai choisi, mais non, quand même, c'est pas, je ne vais pas quitter le camp. Je vais rester dans mon camp. Et ce camp-là vous amène en enfer pour l'éternité. Le salut est gratuit, oui, mais ça coûte de prendre position. Vous me dites, et si quelqu'un accepte le Seigneur, prend position et entre dans les eaux du baptême, est-ce qu'il est sauvé? Pas forcément, non. Mais non, on peut faire tout ça sans être sauvé. Il y a des millions de gens qui font ça. Hein? Surtout en Amérique où c'est facile d'être baptisé et tout le monde, mais voilà. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est vraiment sauvé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut jouer avec Dieu. On connaît le langage. Quelqu'un qui est dans une église pendant, peut-être quelquefois, depuis son enfance, il connaît tout le langage. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, tu seras baptisé, gna. Ils savent tout ça. On peut le savoir intellectuellement et jamais l'expérimenter dans le cœur. Il faut que le salut descende de là, là. Et vous dites, mais comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est vraiment... Même moi, comment je puis savoir si je suis vraiment sauvé? Mais ça dépend de vos appétits, des changements dans votre vie. Est-ce que vous aimez vraiment lire la Bible? Est-ce que vous aimez vraiment prier, être avec les autres qui prient? Est-ce que vous aimez vraiment parler du Seigneur quand vous êtes ensemble? La joie de votre cœur, c'est de parler de Christ. Est-ce que votre vie a totalement changé? Il y a une douceur qui est entrée dans votre cœur, tout ça? Bon, ce sont des bons indices que vous êtes sauvé. Hein? Si rien de tout cela s'est passé, c'est un bon indice que vous n'êtes pas sauvé. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Hein? On pense jouer avec Dieu, mais on ne joue pas avec Dieu. Il nous connaît, et c'est l'éternité, en enfer ou au ciel. Et chacun doit décider où il veut passer l'éternité. Je vous dis, toutes les autres doctrines sont minimes, c'est rien du tout. Est-ce que vous êtes sauvé ou non? Est-ce que vous êtes dans un cas impossible? Vous dites non, je ne crois pas. Je suis encore troublé quand vous parlez. Mais alors, profitez-en. Hein? Profitez-en en disant, voilà, je ne veux plus jouer avec Dieu, c'est trop important. Je veux être dans le camp de Dieu. Coûte que coûte, je veux être dans le camp de Dieu. Et que je veux que ma vie commence à compter. Je ne veux plus jouer avec Dieu. Je veux que ça soit réel. Nous, quand je pense à l'islam et la conquête d'islam sur les gens, et comment l'islam avance et avance et avance. Mais est-ce que vous avez jamais vu le jeûne? Mais les jeunes sont prêts à se donner la vie. Ils sont prêts à se suicider. Mais me voici, qu'est-ce que je dois faire? Où est cette flamme pour Christ? Moi, j'ai pris pour 10 hommes, entièrement à Christ pour renverser la ville de Paris. 10 hommes qui disent, voilà, il n'y a que Christ qui compte pour moi, pas tout le reste. Je veux être vraiment avec Christ, entièrement. Avec 10 hommes, on renversera la ville de Paris. Mais il faut que ce soit 10 hommes comme les islamistes, prêts à mourir, prêts à faire n'importe quoi, en avant, coûte que coûte. C'est ça. Quand on voit des chrétiens de cette espèce, les choses vont commencer à changer. On cesse de jouer l'Église et on commence vraiment à conquérir le monde. Prions Dieu.